Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
Jean-Louis Tour.
Il est quasiment 20h, vous êtes sur RMC, le RMC Football Show vous accompagne jusqu'à 21h avec Lionel Charbonnier. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée de l'after qui sera là entre 21h et minuit. Avec en fil rouge tout au long de l'after et du RMC Football Show, le direct avec le match de Rennes face à Rosenborg. Barrage aller de conférence Europa League, Xavier Grimaud, Roazhon Park.
Et ça va partir dans une poignée de secondes et c'est parti à l'instant même entre Rennes et Rosenborg, donc le 6ème du dernier championnat de Ligue 1, Rennes qui joue le 4ème du championnat norvégien. Rosenborg qui a perdu un peu de sa superbe et qui sont quand même habitués des Coupes d'Europe mais ne sont plus champions dans leur pays depuis 2018. On rappelle Santa Maria titulaire. L'arbitre de cette rencontre est un Roumain, Radu Petrescu, et un premier coup franc en faveur des Norvégiens dans leur moitié de terrain. 0-0, 30 secondes Jean-Louis.
Très bien, merci Xavier. Dans cette dernière heure, on vous donnera toutes les infos mercato du jour. On va parler foot italien avec Johan Crochet qui nous rejoint. Salut Johan. Ah non, il n'est pas là Johan. Si
je suis là, bonsoir messieurs.
Salut Johan.
Salut Johan. On va parler avec toi des clubs historiques italiens, la Juve, le Milan, l'Inter, qu'attendre d'eux en Ligue des Champions cette saison. Ce sera à 20h30. Et puis Fred Hermel est avec nous également. Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Tiens, salut les amis. Tu vas nous dire, j'ai vu passer que le Real se pencherait
sur la nouvelle grande gueule.
Ah oui, c'est la nouvelle grande gueule, bien sûr, bien sûr.
Rendez-vous lundi 9h.
Lundi pour la première. Hein. Ça stresse un peu?
Ouais.
Ah. Ah bah ouais, je l'ai vu sur ton compte Twitter.
Hein. Non, je stresse énormément, mais c'est ce qu'il faut.
Hein. Oh, tu rigoles.
Bah, vous connaissez cette histoire de cette jeune actrice qui est allée voir la grande actrice Sarah Bernard. Et la jeune actrice lui dit, moi le track, je connais pas. Et Sarah Bernard la regarde, elle fait, vous inquiétez pas ma petite, ça viendra avec le talent.
Tout ça pour nous dire qu'il est très talentueux.
Ouais, enfin, c'était pour dire que t'avais beaucoup de talent.
Alors Fred, tu nous diras dans un instant si le Real qui se repenche sur Pogba parce qu'il l'avait fait dans le passé, est-ce que c'est crédible? Ce sera tout à l'heure, mais d'abord profitons de votre présence et de l'expertise de Lionel Charbonnier pour parler du poste de gardien au PSG. Demain, dans le groupe à Brest, il y aura et Navas et Donnarumma. Cette cohabitation peut-elle fonctionner? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Donnarumma qui d'ailleurs a donné une interview au Corriere dello Sport pour parler donc de cette fameuse concurrence. C'est une motivation supplémentaire, quelque chose qui me fascine, dit-il.
Bah oui.
On a peut-être quand même là, je sais pas, deux des cinq meilleurs gardiens du monde dans le même club, Lionel.
Bah
c'est quand même
cas...
quelque chose de rare.
Ouais, c'est très rare.
Comment tu vois les choses, toi? Ça peut marcher?
Ça peut marcher à condition qu'ils soient intelligents, mais quand tu parles de grand gardien, ça veut dire grand joueur, et tu peux pas être un grand joueur si tu n'as pas une bonne mentalité. Donc attention quand même du côté de Donnarumma, parce que lui n'a jamais connu le poste de numéro 2 puisqu'il joue Johan, je crois, depuis l'âge de 16 ans hein, au Milan AC.
C'est ça.
Donc il a été titulaire tout de suite. Si là il se retrouve un petit peu en concurrence, ça peut être compliqué pour lui à gérer au fil du temps. Maintenant, si c'est un grand joueur et puis qui a mérité son titre, hein, on est en train de parler de Donnarumma, le meilleur joueur du dernier Euro.
Ouais,
c'est pas n'importe quoi. Et un Navas qui est extraordinaire lors des Champions League et tout ça. Il a envoyé une petite pique, hein, j'ai trouvé moi, Donnarumma, lors de sa dernière interview, lorsqu'il a dit le PSG n'a pas été champion de Ligue 1 l'année dernière, mais l'objectif n'est pas là. Il est sur la Champions League. Je trouve que personnellement, ça veut dire il y a peut-être un petit manque quelque part et je peux peut-être apporter un titre.
Tu crois que c'est un petit...
Je pense. C'est pas non plus méchant, mais c'est une petite manière de s'affirmer. Et la cohabitation, moi, je la vois que non pas dans la concurrence, mais dans la complémentarité.
Ouais.
Surtout avec un turnover, un Navas qui va refaire ce qu'il a vécu avec le... avec le Real Madrid quand il y avait Casillas, donc lui jouait la Champions League et Casillas jouait le championnat. Je pense que Donnarumma risque de jouer le championnat, lui qui n'a jamais connu la Champions League, et Navas
la Ligue des Champions.
Ligue des Champions.
Enfin,
moi qui le vois comme ça. M'appelle pas Pochettino, mais voilà, je pense que ça serait, et lui continuerait d'apprendre ce qu'est la Champions League parce qu'il ne l'a jamais connu, même dans un vestiaire.
Ouais.
Il sait pas ce que c'est se préparer pour une Champions League. Là, il a le vestiaire, il a les Ramos, il a les... Moi, je ne vais pas les refaire, mais tous les mecs qui ont l'habitude de la Champions League, de la gestion, de la préparation. Et donc, il ne fera que se bonifier. Et l'année d'après, ce sera lui.
Donc, Navas, il a déjà connu cette situation, hein, Fred, au Real. Comment ça s'est passé?
Non, enfin, là où c'est problématique pour Navas, c'est ce qu'il a vécu avec Courtois.
Ouais.
Voilà, c'est là, parce que quand Courtois arrive, Navas a gagné 3 Ligues des Champions.
Ouais.
Il est installé, mais... au plus haut. Il est excellent en Ligue des Champions. Il est directement responsable.
Il gagne presque à lui tout seul.
C'est-à-dire que la finale contre la Juve.
Un truc de fou.
Il est absolument fabuleux.
C'est extraordinaire. Proche de ce qui se passe au PSG.
Oui, voilà. Mais alors, là, ce qui s'est passé, c'est que il était le gardien de Zidane.
Ouais.
En janvier 2019, janvier 2020, le Real Madrid, Florentino Pérez, veut négocier avec Kepa Arrizabalaga, veut le faire venir, et Zidane fait tout pour l'empêcher. Janvier 2020, il fait tout pour l'empêcher. Et ce qui se passe derrière, c'est que le Real va au comment dire le Real avec Navas était très bien armé. Non, je dis n'importe quoi. Excusez-moi.
2019.
Non. C'est en 2018.
Ah oui. Non, la saison 2018-2019.
Non. C'est Zizou parce que après il s'en va et il profite du départ de Zidane pour acheter, Courtois.
Courtois.
En janvier 2018. Paris. Le Florentino Pérez négocie avec Kepa Arrizabalaga. C'est fait et Zidane met son veto. Il fait tout pour l'empêcher. Et ça va jusqu'au bout et il gagne la Ligue des Champions. Zidane démissionne de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Et là, à l'été, il n'y a plus la protection Zidane. Florentino Pérez, qui n'aimait pas,
et le club,
qui n'aimait pas Navas. Et là, on va parler de la personnalité de Navas. Je pense qu'il aura le même problème au Paris Saint-Germain. Il y a Courtois qui arrive. Et après, il vit cette saison très compliquée et Navas a beaucoup de mal avec la concurrence. Ouais. Parce que Navas, il était quand même très installé. Il venait de gagner sa troisième Ligue des Champions de suite et il y a quelqu'un qu'on lui met dans les pieds.
Tous les gardiens ont du mal avec la concurrence.
Oui, mais sauf que là, il était installé et
c'est pas un truc
et en
logique.
Fait, t'as ses dirigeants qui en prennent un autre de taille
mondiale. Oui, non, mais c'est terrible.
C'est pas qu'ils prennent un petit jeune pour faire débuter.
Terrible.
Voilà, c'est-à-dire que là, Navas se retrouve exactement dans la même situation qu'il avait connue au Real.
Ouais.
Il est au top, il a l'expérience, et un autre gardien d'expérience, même s'il est jeune Donnarumma, c'est un grand gardien qui vient d'être élu, comme vous l'avez dit, meilleur joueur du dernier Euro. Donc, c'est pas un petit jeune qu'on met pour le mettre à côté. Non, on le met en concurrence. Et Navas le vit très difficilement. Surtout que Navas, j'écoutais ce que tu disais quand, et ce que disait Lionel quand Donnarumma, dans son interview au Corriere dello Sport, dit oui, ils n'ont pas gagné, nanana. Ça, Navas ne sait pas faire. C'est pas un gardien politique.
Ouais,
c'est pas un homme politique. C'est quelqu'un de très croyant qui s'en remet toujours à Dieu, etc. Mais on va dire qu'il souffre de. C'est un gardien extraordinaire.
Il est trop gentil, en fait.
Il est trop gentil et puis il n'a pas de charisme humain,
D'accord. Il prend pas la place dans un vestiaire, quoi.
Et donc, en fait.
Bah, l'autre, avec cette petite phrase, moi, personnellement, moi, je suis là, quoi. Vous voulez gagner le championnat, je suis là.
Alors, et Navas, t'auras pas à répondre à ça. Interrogeons Johan là-dessus. Ça colle à la personnalité de Donnarumma. Comment tu la vois, toi qui le connais bien, cette cohabitation?
Bah, il a une très grosse personnalité et puis évidemment quand tu commences à 16 ans, tu as le temps de te construire et de mûrir en même temps que tu progresses sur le terrain. Donc c'est un leader, c'est quelqu'un qui va pas forcément beaucoup parler mais qui a un statut, un charisme qui lui permettent de tirer les autres vers le haut. C'est quelqu'un qui est très froid en fait. C'est ça qui impressionne tout le monde, c'est que c'est pas un gardien très expansif, c'est pas quelqu'un qui va hurler de joie après une victoire ou qui va s'effondrer après une défaite ou qui va hurler après ses coéquipiers. Il est extrêmement froid et ça marque tout le monde, tous ses éducateurs, toutes les personnes qui l'ont connu à Milan, etc. Et c'est pour ça que quand on parlait de son avenir, il ne parlait jamais. C'est quelqu'un qui parle très peu, donc j'étais un peu étonné de le voir déjà parler dans le Corriere dello Sport aussi rapidement avant même d'avoir joué au Paris Saint-Germain. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, j'ai envie de dire, il a jamais eu une énorme concurrence non plus. À Milan, il arrive, il saute immédiatement Diego Lopez, d'ailleurs qui est un ancien du Real, si je me souviens bien. Et puis il y avait Cristian Abbiati aussi, qui était un peu le vétéran, etc. Mais il les saute immédiatement et derrière, il.
C'est là où
sa place,
peut être dangereux, yo. C'est
bah
justement
oui, parce
là parce que tu sais pas comment
lui non plus la concurrence finalement enfin pas lui non plus parce que Navas l'a connu, mais lui l'a jamais vraiment connu en club.
Il l'a jamais géré. C'est ça.
Exactement.
Moi, j'ai quand même le sentiment. Alors, attendez, juste avant de reprendre le débat, Fred, je te redonne la parole. Il y a eu une grosse occasion pour Rennes face à Rosenborg en barrage aller de conférence Europa League, Xavier Grimaud.
Ouais, exactement. 9 minutes de jeu, 0-0. Il débute bien, les Rennais, avec une pression sur le but de Rosenborg qui sait pas trop comment se dégager. Il y a eu 4 corners et sur une action placée, Jérémy Doku, le centre fort devant le but, c'est repris par Aguerd et la parade main droite du capitaine Hansen, le gardien de Rosenborg, qui pour l'instant sont un petit peu sous pression par les Rennais. Le bon début de match des Bretons. Toujours 0-0, 9 minutes de jeu.
Fred.
Moi, je crains que Navas se fasse bouffer une nouvelle fois.
Ouais.
De par cette personnalité, parce que Navas, c'est le typique joueur qui plaît aux entraîneurs, mais pas aux dirigeants.
Quand tu dis Fredo qui se fasse bouffer, c'est-à-dire que tu le vois même pas jouer en Champions League?
Bah, en tout cas, qu'il ne joue pas ce qu'il aimerait jouer.
Mais juste, il y a un truc quand même qu'on dit pas pour l'instant, c'est à quel point les performances sur le terrain du titulaire vont être conditionnées par cette concurrence, par le fait qu'il y en ait un sur le banc qui ne soit là qu'à guetter la moindre erreur et qu'il y ait des débats. Navas, ça peut le perturber. Là, pour l'instant, c'est lui qui commence la saison. Mmh. Mais Lionel, c'est quand même pas facile quand t'es gardien numéro 1 et que tu sais que t'as un numéro 2 là qui attend que ta première erreur.
C'est très compliqué, surtout pour le poste. C'est là, il y a deux postes où c'est très compliqué. C'est le poste de gardien de but et le poste d'attaquant. Et si tu veux faire douter des gardiens, bah tu refais. D'ailleurs, le PSG l'a vécu. Oui, ce
Pareola, on s'en rappelle.
Exactement. Ouais. Et ils croyaient en avoir deux. Ils ont eu ni l'un ni l'autre à les mettre en concurrence. Ouais. Bon, et tu perds les deux.
Les deux dont on parle, Navas de Donnarumma, c'est un autre calibre quand même.
Bien évidemment. Non, je veux pas les comparer par rapport. Mais juste comparer ça par rapport à la gestion. Si tu mets des gardiens en concurrence, parfois, tu peux perdre les deux.
Charbonnier-Martini, Giroud, il avait réglé le problème. Voilà.
Tout le temps. Et même lorsque j'ai pris la place à Bruno, par bonheur, lorsque Bruno a dû revenir, qui était numéro 1 français, et il avait tout perdu, parce que sur blessure, Bruno. Et moi, je me suis retrouvé numéro 2 français à cette époque-là. Ouais. Dès que Bruno est revenu, je me suis retrouvé numéro 2 de Bruno. Ouais. Et là, tu fermes ta bouche, et puis tu t'apprends, tu travailles. Mais c'était clair, c'était comme ça, c'était établi. Il y avait la hiérarchie. Alors, la différence entre ce que moi j'ai pu vivre et ce que, et le PSG, c'est aussi que maintenant, on est rentré dans une ère où on fait beaucoup tourner les gardiens, et on est capable de faire jouer beaucoup plus de mon temps.
Toi, c'était rare, tu jouerais rien remplaçant.
Exactement, et j'étais pas le seul club, or que là maintenant il y a pratiquement tous les clubs font jouer une compétition pour chaque gardien.
Aurélien nous rejoint au 32-16 sur le sujet Donnarumma Navas, la cohabitation est-elle possible? Salut Aurélien.
Bonjour.
Salut Aurélien.
Salut. Comment tu vois les choses?
Honoré d'être avec vous.
On est content que tu sois là aussi. Alors, dis-nous ton avis sur le débat.
Eh ben, je vous écoute. Et en fait, moi, je proposerais une chose un peu particulière. Qu'il y ait deux numéros 1, mais non pas qu'ils jouent en concurrence, mais en équipe. Alors, je m'explique. À la place de Pochettino, je les mettrais tous les deux dans un bureau avec une liste d'idées des 19 clubs qu'ils affrontent. Chacun choisit un club qu'il veut affronter à domicile. Et ils font ça en alternance.
Non, c'est impossible, ça, Aurélien.
C'est la démocratie, ça.
Et du coup, il y en a un qui fait le match qu'il veut à domicile, l'autre qui fait le match retour à l'extérieur.
Ouais.
Et ils choisissent chacun comme ça un club. Et les matchs de Ligue des Champions, aller-retour, ils sélectionnent également.
T'imagines les défenseurs, Aurélien? Ils sont perdus, ils jouent pas. Les deux gardiens n'ont absolument pas le même joueur.
Les défenseurs, le vrai avantage, c'est qu'ils auront l'occasion de pouvoir jouer assez souvent avec le même gardien. Oui. Et en fait, ils ont la possibilité de se mettre en accord, d'apprendre.
Mais tous les jours, tu changes. À chaque match, tu changes.
À chaque match, enfin non.
Et pour la finale de la Ligue des Champions, tu fais comment?
Il y en a un qui choisit s'il veut faire la finale de la Ligue des Champions. Et l'autre, il fait les finales de.
Et Aurélien,
de France, par exemple.
Ça serait une grande première.
Il n'y a aucune garantie de.
Et Aurélien,
de toute façon.
J'ai un autre, à mon avis, petit défaut à ta technique, là. Imaginons, il y en a un qui prend l'eau, qui fait une saison catastrophique, et l'autre qui est énorme. Tu changes pas jusqu'au bout de la saison parce que tu as défini ça au préalable?
À ce moment-là, il y aura des améliorations à faire.
Tu les remets dans le bureau et là tu leur remets la tête à l'endroit.
Quoi. Et c'est un qui se blesse pendant 2 mois.
Ouais, alors là je pense que
c'est l'autre qui joue. Imagine que la jeune souris. Enfin, non, mais il se blesse pendant 2 mois. Donc il a joué pendant 2 mois. Donc l'autre, il doit rattraper des matchs qu'il a pas joué.
Ah. Non, il avait pas se blessé.
Aurélien, je pense pas que ça se passe comme ça. En tout cas, dans ce que tu dis,
une des solutions.
En tout cas, il faut que ce soit clair à la limite sur les compétitions. Voilà, ça déjà c'est bien.
Je suis utopique, mais je trouve qu'en faire jouer un en Ligue des Champions, l'autre qui joue le championnat, c'est encore pire.
Il a déjà fait Navas, il a l'expérience.
C'était pas très bon quand même.
C'est
pas très bon, t'es fou. C'est ce qu'il a fait avec le Real Madrid.
Non mais il y avait.
Quand moi, je me souviens.
Bah oui. Et quand il faisait que le
Fred avec Navas,
mais non, c'était Diego Lopez.
Oui, c'était avec Diego Lopez.
Mais non, c'est Ancelotti, la saison 2013-2014. Diego Lopez, qui était le gardien titulaire de Mourinho,
fait le championnat.
Et Casillas, dont plus personne ne voulait, mais une légende du club, il fallait bien lui donner quelque chose. Ancelotti lui avait donné un peu à contre-cœur pour maintenir
la Ligue des Champions.
Ouais,
c'est vrai. Et c'est le gardien de la Décima.
Et, c'est la, et d'ailleurs, c'est celui qui faillit de coûter la décima, puisqu'il fait une erreur énorme sur une sortie sur un corner. Et franchement, pour en avoir souvent parlé avec Ancelotti, c'était une décision plus politique que sportive. Mmh. Et ça n'avait contenté personne.
Ah oui, mais c'est jamais bon. Aurélien, merci d'être venu au 32-16.
De toute façon, il y en a un des deux qui va devoir partir. Je pense que
Merci Aurélien.
Navas, de toute façon. Mais un dernier point, c'est que s'ils arrivent à montrer l'exemple, je pense que tout ce qui va se passer en pointe, ça peut être aussi un très bon moteur pour.
Oh, et le but rennais, l'ouverture du score pour le Stade Rennais. C'est logique, hein, il y avait une vraie domination des Bretons. Et c'est un magnifique centre de Benjamin Bourigeaud et la tête pleine d'agressivité de Naïef Aguerd au deuxième poteau. Le gardien la touche, je crois, mais ça rentre dans le but. 1-0 pour le Stade Rennais qui prend son barrage par le bon bout. 1-0 pour Rennes, le but d'Aguerd.
Merci Xavier. On remercie Aurélien également au 32-16. Johan, on te retrouve dans 10 minutes pour parler des historiques italiens.
Et avec plaisir.
Fred, dans un instant, tu vas nous dire si le Real se penche réellement sur Paul Pogba. À tout de suite dans le RMC Football Show.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
20h16 sur RMC, le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier et un match en direct qui se passe bien pour notre club français. Barrage aller de conférence Europa League, Rennes-Rosenborg, Xavier Grimaud.
Il y a 1-0, 1-0 pour le Stade Rennais. Il y a des espaces. Là, il y a Souleymana qui était tout proche, lancé par Bourigeaud. Il a été pris de vitesse par le défenseur de norvégien qui avait un peu d'avance sur lui. 1-0, donc c'est logique avec un magnifique centre, hein, Lionel, de Bourigeaud.
Ah ouais. C'est travaillé. Il lui a déposé au deuxième poteau et Aguerd, il s'est levé plus haut que tout le monde. Pareil, parce qu'Aguerd, il fait vraiment une détente. Il est même pas lancé et il est au-dessus de la barre. Hein. Il est magnifique ce but.
Exactement, ils mettent ce qu'il faut pour l'instant les Rennais, ils sont devant physiquement, devant dans l'agressivité. Rosenborg, on n'a pas vu grand chose pour l'instant, faut bien le dire, ça balance beaucoup les ballons, donc avantage logique pour les Rennais, avantage
et
précoce surtout. 1-0.
Peut-être que l'un des éléments du changement de la règle du but à l'extérieur fera que les équipes qui reçoivent au premier match vont se lâcher, attaquer davantage, parce que s'ils prennent un but, ça change moins, c'est moins préjudiciable qu'auparavant. Voilà, donc je c'est peut-être pas en lien avec Rennes là précisément, mais peut-être qu'à l'avenir on va se rendre compte que de ça, que l'équipe qui reçoit maintenant va un peu plus lâcher les chevaux. Donc,
en tout cas, il y aura moins de calculs, c'est ce qu'a dit Bruno Genesio, moins de calculs. Ah bah voilà.
Oui, mais sauf que celle qui va à l'extérieur, elle va moins attaquer parce que ça rapportera moins de marques à l'extérieur.
Oui, mais au moins l'équipe chez elle va pousser. Avec son public, voilà, c'est, au moins c'est bien. Voilà.
Moi, je suis un Doku qui lance Terrier, dans la surface de réparation. Terrier, ce sera un nouveau corner. On doit être au moins.
Qu'est-ce qu'il y a, Lionel, avant le corner ?
Ou 7 corners.
Moi, j'aurais fait un panache des deux, c'est-à-dire que j'aurais gardé le but à l'extérieur, sauf en cas de prolongation.
Ah oui, tout à fait d'accord avec toi. On est d'accord, oui.
C'est évidemment,
bravo.
C'était ça.
Lionel, bravo. Président de la FIFA. Voilà. Corner pour Rennes, Xavier.
Ouais, corner pour Rennes qui va être tiré par Benjamin Bourigeaud sur la droite en regardant les buts d'André Hansen qui peut rien faire. Sur le but d'Aguerd, il y a une telle agressivité. De Naïef Aguerd avec un défenseur norvégien qui est pas vraiment au duel. Donc corner pour Benjamin Bourigeaud. On a vu qu'il était bon techniquement puisque son centre était parfait. On va voir s'il le tire bien à ce corner. Il y a Jérémy Doku qui est en embuscade pour éventuellement le jouer à deux. D'ailleurs, c'est ce que demande Genesio. Premier poteau, il n'y avait pas de marquage sur Amari Traoré. Ouais, le marquage sur corner,
il est
de
tout seul.
Incroyable. Heureusement que c'est Traoré, c'est pas le meilleur technicien de l'équipe parce que
c'est pour ça qu'ils l'ont laissé tout seul.
Ouais, peut-être.
Non, il a loupé sa reprise, mais il lui avait déposé Bourigeaud encore. Excuse-moi, Xavier.
Non, mais tout à fait. C'était une énorme occasion. On en reste à 1-0 donc pour Rennes qui pour l'instant semble bien au-dessus de cette équipe de Rosenborg. 1-0 la 19e.
Merci Xavier. Alors, Fred. Donc c'est sorti dans la presse espagnole ce matin, mais on préfère toujours vérifier avec toi. Est-ce que le Real est en train de relancer le dossier Paul Pogba, un dossier que le Real suit ou du moins a suivi plus ou moins dernières saisons.
On va parler de la genèse. Quand Zidane accepte de, je vais pas me tromper dans les dates cette fois, accepte de revenir au Real Madrid.
Ouais.
Dans la liste de joueurs qu'il demande à Florentino Pérez pour la saison suivante, parce que je vous rappelle qu'il revient en mars 2019. Oui, c'est sûr ça, hein, je te regarde, mais c'est ça. Mars 2019, le premier sur la liste, c'est Pogba. Ouais. On lui promet. Sauf que Manchester United demande tellement d'argent que le Real Madrid ne l'achète pas. Voilà. Et surtout que Pogba ne fait absolument aucun forcing pour essayer de partir de Manchester United. Voilà, en essayant de pousser un peu des déclarations publiques, histoire de faire baisser un petit peu, de mettre la pression, faire un peu baisser le transfert. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est un coup de Mino Raiola, qui est, parce que je pense qu'il est en train de renégocier son contrat à Manchester United, d'après ce que j'ai entendu.
Bah, c'est une possibilité. En tout cas, Manchester United fait tout pour le prolonger.
Pour le prolonger.
Lui, à un an de la fin du contrat.
Et comme par hasard, sort un intérêt du Paris Saint-Germain, Voilà. Mais ça suffit pas, peut-être. Donc là, Mino Raiola a sûrement appelé deux, trois copains dans la presse espagnole pour parler d'un intérêt du Real Madrid.
Donc c'est pas vrai.
Sincèrement, moi, ce que me dit au Real depuis un long moment, c'est que ce sera cet été Mbappé ou rien.
Ah ouais. Il n'y aura pas d'autres recrues.
Non.
D'accord.
Non. C'est voilà. Il faut rappeler que le Real a fait zéro transfert ces deux dernières saisons.
Ah oui.
Parce qu'il n'a pas venu gratuitement. Hein.
Parce qu'ils peuvent pas faire plus.
C'est-à-dire que s'ils peuvent faire Mbappé,
mais que Mbappé.
Oui. Non, mais c'est-à-dire que
la priorité c'est Mbappé. À partir du moment où il faut Mbappé, et derrière ils peuvent.
Mais oui, mais s'ils le font pas, Fred nous dit c'est rien s'ils le font pas.
Oui, c'est rien parce que le Real a des comptes dans une situation très compliquée du football espagnol. On le sait hein, à cause de la pandémie. Le Real a quand même fait 800 000 euros de bénéfices la saison dernière, mais en serrant les boulons, etc. Donc le Real en fait ne va finalement prendre des risques financiers que pour un énorme coup. Et le seul coup qui intéresse Florentino Pérez, qui est le seul qui décide dans ce club. D'ailleurs, il a la légitimité, il est élu par les socios tous les 4 ans. Et c'est Kylian Mbappé. Et le Real va faire, je l'ai expliqué l'autre jour ici, le Real va essayer de faire un coup avec Mbappé. Sans grand espoir, parce qu'il sait très bien que le PSG fait ce qu'il veut au niveau financier, et que n'a pas besoin de vendre Mbappé, et qu'il va garder Mbappé. Mais voilà, il n'y a pas de possibilité de faire n'importe quoi. Ouais. Et franchement, Pogba... On a quand même le sentiment à Madrid que sa chance est passée. Parce D'accord. que souvent on avait parlé de lui, hein. Il a eu plusieurs fenêtres de tir. Il n'a jamais rien fait pour provoquer sa venue au Real. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt, alors peut-être que je me trompe, mais que c'est plutôt des manœuvres de son agent Mino Raiola. Et on sait qu'il sait faire ce genre de choses pour faire monter les enchères.
Lionel, t'es à la place de Pogba. T'as donc 3 choix. Prolonger à Manchester. Aller au PSG.
PSG.
Tu vas au PSG ?
PSG.
D'accord. Alors, sachant que si ça se fait pas cet été, parce que c'est compliqué quand même financièrement, il est libre l'année prochaine.
Ouais, mais moi...
Tu vas pas au Real ?
Non. Je prends le PSG.
Bon, d'accord.
Mais sans hésiter.
Parce que s'il n'a pas fait le forcing alors qu'il y avait Zinedine Zidane qui le demandait, et en plus, à l'époque, Zidane le disait publiquement.
Attends, cette histoire de forcing, quand même, c'est pas aux joueurs de faire le forcing quand il est
au Real, ça marche comme ça.
Ah bah non, mais bon, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner.
Je t'explique comment ça marche au Real.
Oui, mais
au Real,
c'est pas des méthodes,
tu sais, le Real,
c'est pas des façons de faire. Le club se met d'accord avec l'autre club et après, le joueur peut manifester son intérêt.
Non, mais au Real Madrid,
un joueur qui porte le maillot d'un club, il peut pas manifester son intérêt pour un autre club.
Malheureusement, son envie de partir, il faut manifester son
amitié. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe.
Le Real a toujours fait comme ça.
Regarde,
beaucoup le font.
À l'époque, Zidane, il le fait pas quand il est à la Juve. Il attend que Florentino Pérez lui passe le pied.
Tout le monde le fait pas.
Voilà.
Heureusement, tout le monde le fait pas.
Sur plein de joueurs.
Je suis d'accord avec toi, ça se fait pas, mais beaucoup le font.
Ah oui, mais ça se fait pas, vous m'empêcherez pas de le dire.
Jean-Louis, bisounours.
Mais non, mais c'est juste que, à un moment, il faut arrêter de tout pardonner au club espagnol.
Mais non,
ils ont des méthodes. Mais ils ont des méthodes dégueulasses parfois.
Je te dis que le Real est le gentil. Le Real manœuvre par derrière, mais officiellement, ils ne font rien, mais ils attendent que le joueur fasse le premier pas, puis après, ils viennent voir le club en disant, bon, toujours,
c'est exactement
partir,
comme le Barça, ce qu'avait fait le Barça avec Verratti à l'époque au PSG, c'est pas des méthodes. Surtout quand on est un grand club comme ça, t'es le Real, t'es le Barça, bah, tu te mets d'accord financièrement avec l'autre club et après, tu recrutes.
Eh ben non, parce que, alors, il y a un truc aussi, c'est que ces grands clubs, quand t'es le Real et le Barça, on te fait toujours payer plus cher que les autres.
Et le PSG.
Et le PSG maintenant, et City. Donc, le moins de joueurs, c'est plus cher. C'est 25%, 30% plus cher. Donc, tu attends que le joueur fasse un pas pour que ça revienne à un prix normal.
C'est fou.
Ben, c'est fou, mais c'est d'arrêter, Jean-Louis.
C'est comme ça. Tu sais,
bah, excuse-moi, de m'indigner. Voilà.
Ben oui,
Stéphane,
c'est
plein d'indignation, Fred également. J'aimerais bien que tu les aies aussi dans le foot.
Mais moi, je suis honnête par rapport à ça. C'est pas beau, mais c'est leur méthode.
Ah ben, j'ai pas entendu. C'est pas beau jusqu'à maintenant.
Eh ben, je dis c'est pas beau, mais c'est le monde. Tu sais, Jean-Louis, je sais que tu es trop
jeune encore.
Ben oui, t'es encore jeune, t'as encore plein d'illusions sur le monde du football, etc. Moi, je suis un vieux cynique.
Bon, Fred, merci.
C'était un grand plaisir.
Bonne soirée
et bon GG.
Et bah, c'est lundi
9h.
C'est lundi, je voulais le mettre un peu en stress, étant donné qu'il
Non, tu m'écouteras, Lionel. Hein.
Bien évidemment.
Et tu peux me voir aussi sur MC Story, canal 23 de la TNT.
Alors, on t'écoutera tous, et on te rattrapera si c'est pas bon.
Ah ben, j'attends de vous cette honnêteté. Mais ne me ratez pas si je suis très bon.
Ah ben, bien sûr. Et d'ici là, on t'entendra quand même sur RMC Sport.
Ce soir, dans l'after, nous allons conseiller Messi pour sa maison à Paris.
Très bien, merci.
Je vais raconter ce qu'il avait à Barcelone et ce qu'il pourrait avoir à Paris.
Ah, très bien. Il y aura des
questions. En ce moment, je suis plein dans l'immobilier. Donc
très bien. Allez, merci Fred. Le direct, Rennes-Rosenborg, barrage aller de conférence Europa League, Xavier Grimaud.
Et toujours 1-0 pour le Stade Rennais. 25 minutes de jeu. Le buteur Naïef Aguerd à la 15e. Ouais, faut marquer encore. Effectivement, ça a un tout petit peu baissé.
Merci pour l'analyse, Lionel.
Ah ouais, non mais mais ils sont vraiment dans l'image de ce qu'ils ont pu faire en championnat. C'est-à-dire que les occasions ils les ont, mais dans les 20 derniers mètres, c'est pas assez. Ils sont pas assez tueurs, je trouve. Ouais, ouais. Ces Rennais.
Ouais, on a le sentiment qu'ils peuvent déclencher plus vite, qu'ils peuvent tenter plus. Absolument, Lionel. D'ailleurs, c'est l'un des soucis depuis sur les deux premiers matchs. Mais bon, en tout cas, ils sont dominateurs. On a vu une incursion. Je dis vraiment incursion parce qu'il n'y avait pas grand-chose de Rosenbach dans la surface de Rennes. Bourigeau sur le côté gauche qui va aller gratter un nouveau corner. Je les compte plus, il y en a trop. Bourigeau qui est techniquement très très bon ce soir. Tout à l'heure, en une touche de balle, il a fait une magnifique extérieur du pied pour lancer Souleymane. On peut suivre le corner si tu veux, Jean-Louis.
Ouais, allez.
26e minute, c'est joué à deux avec Souleymane, justement le centre de Souleymane, claqué main gauche par le gardien Hansen parce que c'était peut-être cadré. C'était vicieux de la part de Souleymane qui demande a priori à Terrier de plonger au deuxième poteau. Donc ce serait une touche en faveur des Rennais avec Traoré qui va jouer pour Loïc Badet. Ça se passe bien quand
ils sont à l'agonie. Hein.
Oh ouais, ça va être long pour eux.
Oh là là.
Ah ouais, ça risque d'être très très long, effectivement.
Mais c'est pour ça, tu vois, ce que je disais, faut marquer parce qu'il y a énormément d'occasions. Ils ont la balle, ils ont le monopole du jeu dans les 40 derniers mètres. Et puis, dès qu'ils se rapprochent dans les 16 mètres, comme en championnat, il n'y a pas les bons appels. C'est pas assez percutant. On dirait qu'ils sont, je sais pas, un petit peu en dedans pour se jeter, pour aller marquer, qu'ils ne sont pas morts de faim.
Ouais, à l'image d'un Martin Terrier qui se procure assez peu d'occasions. Il est très mobile dans cette position de numéro 9, mais il tire très très peu, très très peu au but. Donc c'est un axe de progression pour ce match.
Il est quand même meilleur sur un côté, je trouve.
Avec un deuxième attaquant.
Ou avec un deuxième.
Seul comme ça, moi non plus, je suis pas convaincu.
Ouais, moi non.
Il avait été bon quand Genesio arrive. Il est très bon en numéro 9.
Il marque
beaucoup de buts. Le but de Bruno Genesio en début de saison, en préparation, c'était de faire une attaque à deux avec Guirassy.
20e corner.
20e corner. Je crois que c'est le 10e.
Je vais vérifier ça.
En tout cas, ça passe facilement, on va dire ça. Donc, je sais pas si ça joue bien, mais ça passe facilement du côté Rennais face à une équipe de Rosenbrun qui, pour l'instant, semble quand même très faiblarde sur ce qu'on peut voir. Le 4e à mi-championnat en Norvège, qui restait sur 9 victoires. J'entendais ça lors des paris. Alors, sur les 9 victoires, il y en a 5 face à une des 4 en coupe.
Ah oui.
Bon, je sais pas s'il faut quand même les.
Quand il va y avoir but, là, je le sens. Ouais.
Allez, des fois, regarde, en Coupe de France, on les met pas, les Ligue 1.
C'est vrai. Corner sur la droite en regardant les buts de Hansen. Le 9e ou 10e corner déjà pour les Rennais. C'est bien tiré, point de pénalty, la tête encore de Naïef Aguerd.
Ils
ont l'axe préférentiel. Et ça passe à côté des buts de Hansen.
Ok.
1-0, la 28e.
Dans une seconde, Johan Crochet de retour avec nous. Les cadors italiens, les clubs historiques, peuvent-ils être compétitifs en Ligue des Champions cette saison? L'Inter, la Juve, le Milan. Johan va tout nous dire de leur mercato dans une seconde. Restez avec nous, c'est le RMC Football Show. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis
Tour. 20h30, le RMC Football Show jusqu'à 21h avec Lionel Charbonnier, les infos mercato à venir, le foot italien avec Johan Crochet et les objectifs ou du moins les ambitions que peuvent nourrir les Italiens en Ligue des Champions cette saison. Et en plus de tout cela, le direct, Rennes-Rosenborg, l'Eurozone Park, barrage allé de conférence Europa League, Xavier Grimaud.
Et la 31e minute de jeu, 1-0 pour le Stade Rennais. Le but d'Aguerd au quart d'heure de jeu sur un magnifique centre de Benjamin Bourigeau. Benjamin Bourigeau qui s'est tenu la cheville. Il a pris un coup dans un duel avec un Norvégien. Ça a l'air d'aller, il boite un peu, mais ça va tenir pour Benjamin Bourigeau. Excellent depuis le début du match. Rennes donc qui maîtrise son sujet face à une équipe de Rosenborg qui paraît assez faible. Maintenant, il s'agirait de marquer un peu plus de buts pour se mettre à l'abri avant un match retour la semaine prochaine en Norvège. La 31e, Jean-Louis, 1-0 pour Rennes.
Jean-Louis, il y avait un gardien à Rosenborg, tu t'en souviens du chauve là?
Non.
Très bon.
Non, je l'ai pas là.
Tu l'as pas?
Là, je l'ai pas. Je me souviens que Rosenborg avait pris 7-2 contre le PSG. Ça, je peux te le redire.
Ils avaient un très bon gardien.
Mais sinon,
assez
non.
âgé là.
Là, je peux pas
t'aider. Ça m'énerve.
Assez âgé, connu.
Ouais, c'était un bon gardien. Ouais, il était international.
Xavier va nous trouver ça. Dans les autres matchs, parce qu'il y a les clubs importants là. Enfin, il y a tous les clubs qui jouent ce barrage donc de Conference League. La Roma joue à Trabzonspor. Il y a 0-0 dans leur rencontre. Tottenham est à Passos de Ferreira au Portugal. 0-0 également dans cette rencontre.
Trabzonspor.
Tiens, je vérifie si Harry Kane est titulaire. Non, il n'est pas titulaire côté Tottenham. Lui qui est toujours en instance de départ donc vers Manchester City. Et puis voilà pour le reste. Donc vous avez tout ça, les scores en cours sur rmcsport.fr. Il y a les barrages également d'Europa League, hein, mais là aussi, donc il n'y a pas de club français concerné. et pas de résultat vraiment notable pour l'instant. C'est le début des rencontres. Johan Crochet de retour avec nous, notre spécialiste du foot italien. Johan, alors on voulait profiter de ta présence pour faire le point sur les mercato des, j'allais dire, des historiques italiens. On pourra ajouter l'Atalanta également, mais les qualifiés pour la Ligue des Champions, l'Inter, la Juve, le Milan, quels peuvent-ils être compétitifs en Ligue des Champions cette saison? Ça va être la question. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en parler. Bon, déjà l'Inter, on a du mal à s'enflammer vu les soldes et les joueurs qui sont partis.
Bah, en fait, Jean-Louis, on ne sait pas encore s'ils vont être compétitifs, mais ils le doivent absolument. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a tolérées, entre guillemets, et encore ça fait beaucoup de bruit du côté de l'Inter et de la Juve, notamment je vais prendre ces deux principaux clubs-là, qui ne seront plus tolérables cette saison. Ce qui s'est passé du côté de la Juve avec Lyon, l'Ajax et Porto, deux fois en huitième, une fois en quart, c'est pas tolérable. Donc il faudra pas que ça recommence. Du côté de l'Inter, je rappelle que les deux mandats d'Antonio Conte, à aucun moment, enfin lors de ces deux mandats-là, pardon, l'Inter n'est pas sorti de la phase de poule. Même chose, c'est pas tolérable. Ça peut arriver une fois, ça ne doit pas arriver deux fois. Donc évidemment, ils ont une grosse pression sur la Ligue des Champions. L'Inter forcément un peu moins avec ce qu'on appelle le redimensionnement un petit peu du projet interiste et avec deux ventes importantes d'Hakimi et Lukaku et le départ d'Antonio Conte évidemment. Mais il y a un espoir à la Juve, c'est que, et on le voit lors des premières sorties de la Juve d'Allegri, c'est que évidemment que c'est pas un magicien. Évidemment qu'il va pas tout changer, tout révolutionner comme ça après deux années très compliquées en termes d'identité. Néanmoins, on voit au moins une équipe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on voit au moins une équipe cohérente qui ressemble à quelque chose, qui a une idée. Alors tout n'est pas parfait, mais on est très loin de la Juve d'Andrea Pirlo en fait. Donc il y a un espoir parce que la Juve avec Allegri avait fait finale en 2015, finale en 2017. Donc évidemment, on se raccroche aussi à ça. On pourra toujours me dire il y avait un autre milieu de terrain, c'est vrai. Mais on a Locatelli qui vient d'arriver, donc il y a aussi des espoirs. Et il y a quand même des très grands joueurs à la Juve. Les Dybala, les Ronaldo, les Kulusevski, les Chiesa. Attention, on parle de les De Ligt, Bonucci, Chiellini, etc. On a quand même un super effectif à la Juve. L'Inter, tu l'as dit, on a du mal à voir un Inter qui sera ultra compétitif en Ligue des Champions parce qu'on sait même pas déjà ce que ça va donner en championnat avec les départs importants et puis surtout un changement d'entraîneur. Pour le Milan, c'est un petit peu différent parce que le Milan redécouvre ce niveau-là, ça fait des années,
oui,
des années,
quasiment
10 ans, voilà, qu'il n'avait pas été en Ligue des Champions, donc on peut pas avoir les mêmes attentes. Mais attention, Milan a pris des joueurs d'expérience, Milan a Zlatan, Milan a Giroud, Milan a Simon Kjær. Donc il y a des joueurs d'expérience aussi dans cette équipe-là. Donc il y a des joueurs qui sont capables d'amener et de faire comprendre aux autres l'exigence du plus haut niveau. Et notamment l'intégration de Giroud est parfaite parce que on a une personnalité ultra positive qui va indiquer le chemin aux autres aussi parce que lui il a connu le ultra haut niveau et les coupes d'Europe, les finales de coupe d'Europe, etc. Et puis le dernier, c'est l'Atalanta. Alors l'Atalanta, c'est une nouvelle réalité du foot italien, mais est-ce qu'on doit demander à l'Atalanta de faire quart ou huitième chaque année? J'en suis pas persuadé. Ou en tout cas, si on lui demande de faire ça, ça veut dire qu'ils ont pris un sacré virage au niveau des ambitions.
Sauf si on considère qu'ils s'installent vraiment, tu vois.
Mais
au niveau mercato,
effectif. T'as encore l'Atalanta. Je prends un exemple. Ils ont vendu Romero, 55 millions d'euros à Tottenham, qui était pour moi le meilleur défenseur central italien de la saison dernière. En Serie A, pas italien mais en Serie A. Donc ils ont quelque part l'Atalanta, ils sont pas encore à des 350 millions, 400 millions, 450 millions d'euros de budget. Donc chaque année, ils vendent encore un ou deux joueurs. Donc c'est pour ça qu'on peut pas leur demander la même chose qu'à la Juve et à l'Inter, c'est impensable pour moi. Néanmoins, très honnêtement, sur les deux dernières saisons, l'équipe qui a fait un peu le moins de peine ou le moins de honte aux Italiens en Ligue des Champions, c'est l'Atalanta. Et c'est pas une autre équipe.
Ah ouais, bien sûr.
Donc on peut s'attendre à toujours surfer sur cet enthousiasme-là, mais la Juve est dans une reconstruction importante. Allegri connaît bien les rouages, donc ça peut accélérer aussi la transition. Mais moi, j'attends plus de la Juve. Alors, je vais pas attendre qu'ils arrivent tout de suite en finale, mais je vais attendre autre chose que les matchs contre Porto, Lyon et l'Ajax. Ouais, ça, c'est clair. Raison,
ouais. Est-ce que l'Atalanta, fait partie des deux équipes, deux ou trois équipes qui pourraient changer le football italien, en tout cas sa conception?
Elle est déjà en train de le faire, comme Sassuolo par exemple.
Je pensais à Sassuolo, l'Atalanta, c'est vraiment les deux fers de lance où on fait un football total. Mais c'est pas encore venu du côté de la Juve et de l'Inter et même du Milan.
tu sais, la Juve avait pris Sarri pour ça. le choc culturel, la révolution du jeu devait arriver par Sarri.
Ouais, mais
puis on a vu que malgré les bonnes idées de Sarri, quand tu te heurtes à un vestiaire qui a pas forcément envie de changer, c'est très compliqué. Donc parfois il y a des entraîneurs qui arrivent avec des bonnes idées, mais la réalité, l'environnement, l'atmosphère du club fait que tu ne peux pas y arriver. Donc on verra comment ça va se passer. Là, une révolution, ça se fait pas en deux ans, entre guillemets. On a eu l'Atalanta, on a eu Sassuolo, on a eu
l'équipe nationale aussi.
L'équipe nationale, on a vu des équipes de division inférieure, Spezia, Empoli, Lecce, l'Hellas Vérone. Tout ça, c'est des équipes qui jouent très bien. On attend que le ruissellement arrive par le haut maintenant, dans le sens inverse, que ça parte pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Et que ça touche un petit peu, Sarri et Lazio cette saison, donc on va voir ce que ça va donner. Pioli continue au Milan, et ça c'est une bonne nouvelle. Simone Inzaghi est entraîneur un petit peu différent et peut-être même un peu moins frileux qu'Antonio Conte parfois, donc ça peut être intéressant. Et après il y a Spalletti à Naples, c'est très identitairement c'est un vrai bon football chez Luciano Spalletti. Et puis il reste l'inconnu José Mourinho à la Roma, où là je pense qu'on va pas être sur le niveau de jeu et plus sur autre chose.
C'est clair. Ou alors c'est son cousin.
Très bien, Johan, merci.
Voilà, donc je suis champion d'Europe, mais j'ai pas gagné la Coupe d'Europe encore.
Non, c'est ça, exactement.
On va espérer que ça soit pour cette saison.
Champion d'Europe en club. Bah, ça paraît compliqué, Lionel, quand même, de voir un Italien gagner la Ligue des Champions. Tu vas pas décider parmi tes favoris.
Parce qu'ils arrivent de loin. Non.
Même l'Inter ou la Juve.
Et surtout, moi, s'il y a une équipe que j'attends plus que les autres, c'est la Juve.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même il y a un effectif de folie, Johan le disait, et puis il y a quand même.
De folie, il ne faut pas exagérer non plus.
Oh, il est bon.
Non. Il y a quelques lacunes quand même.
Dans quel effectif tu n'as pas de lacunes.
Oui, c'est vrai.
Moi j'aime beaucoup.
Il y a une petite enflammade de Lionel, là, effectif de folie.
De folie peut-être pas, mais moi je pense qu'il y a un effectif pour faire demi-finale de Ligue des Champions.
Je pense.
Ça doit être l'ambition en tout cas.
Exactement.
Moi je pense, ils sont capables, et c'est la Juve que j'attends au plus haut niveau, sur la plus haute marche.
Mais c'est normal, les clubs italiens d'habitude. Si vous vous souvenez de la dernière décennie, je rappelle que c'est la première décennie dans l'histoire du football italien où il n'y a pas de victoire en Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe. Je rappelle que habituellement on disait les autres clubs on sait pas trop, mais au moins il y a une certitude, c'est que la Juve va aller loin. Là le problème c'est que les trois dernières saisons la Juve n'est pas allée loin, et qu'il y a des clubs moins armés entre guillemets qui ont été plus loin. La Roma fait demi-finale, l'Atalanta fait quart de finale. Donc on va attendre de la Juve qu'elle atteigne ce niveau-là, et que elle l'atteigne une fois, deux fois, trois fois d'affilée. C'est la place que doit avoir la Juve aujourd'hui. Oui. C'est une place qu'elle doit retrouver, donc on va être très exigeant. Allegri le sait, les dirigeants le savent, les tifosi de la Juve sont les premiers à être ultra exigeants, et ils ont bien raison. Donc on espère une belle campagne européenne des clubs italiens et de la Juve en particulier.
Très bien, Johan, merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous, messieurs.
Salut, Johan.
Et on revient à Rennes, Rosenborg, barrage aller de conférence Europa League, Xavier Grimaud.
Et 1-0 pour le Stade Rennais, la 40e. Jérémy Doku qui est parti côté droit. Il va s'appuyer sur Santa Maria. Le centre de Santa Maria. Bourigeaud un peu bousculé. Sous les yeux de l'arbitre, il n'y a rien du tout. Le ballon dans les airs. Est-ce que Rennes va pouvoir déclencher une occasion? Non, ce sera une touche. Avec cette ouverture trop longue de Melling, ça a un petit peu baissé de rythme, hein, Lionel. Cette rencontre, on a vu la première frappe des Norvégiens à la 36e. Une frappe du jeune Taxet, Norvégien de 20 ans qui est passé au-dessus. Une frappe à 20 mètres. Et on a vu également encore un excellent centre de Bourigeaud tout à l'heure qui avait déposer le ballon sur la tête de Melling.
Ça a baissé de rythme, mais les Rennais, pour un match du mois d'août, ils mettent de l'intensité, ils sont là quand même. Je trouve qu'il y a des courses et tout, c'est assez plaisant.
C'est moins transcendant, je suis d'accord avec Xavier. Je trouve que c'est moins transcendant dans les transitions défense-attaque. Pour l'instant, les Rennais, ils étaient beaucoup plus percutants. Là, je les trouve un petit peu en dedans. D'ailleurs, les premières occasions de Rosenborg commencent à arriver maintenant.
Ouais, mais là où t'as raison, Jean-Louis, c'est vrai que les Rennais sont en rythme. Ils avaient mis beaucoup le rythme déjà lors du premier match face à Lens. Francaise était presque surpris de voir autant d'intensité pour une première journée. Mais Bruno Genesio l'a dit, ils se sont préparés en ce sens pour que justement ils soient là au niveau de l'intensité et du rythme face à une équipe de Rosenborg qui elle est à mi championnat. Là où je trouve que ça pêche, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à bien lancer en profondeur et sous les manas et Doku, alors que c'est leur point fort. Donc c'est un petit peu encore encore perfectible. Et donc pour l'instant, il n'y a qu'un ce petit but d'avance qui est déjà pas mal. Mais à 3 minutes de la pause, 1-0, le but d'Aguerd au quart d'heure.
Allez, on revient dans un instant, Xavier. On valide la fin de la première période avec toi. Rennes mène 1-0 face à Rosenborg. Et les infos mercato du jour. Lyon tient donc sa recrue. C'est officiel. Avec donc un champion d'Europe. Je vous raconte ça dans un instant. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
20h43, le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier. L'after arrive à partir de 21h et jusqu'à minuit. On va donner toutes les infos mercato dans une seconde, mais il y a du direct. Sachez d'abord en tennis, Benoît Paire vient de battre John Isner en 8e de finale du Master 1000 de Cincinnati. Donc quart de finale pour Benoît Paire, belle perf pour lui. Gaël Monfils est opposé à Rublev actuellement, 2-2 dans le premier set, 2-2. Donc pour ce match entre le Français et le Russe. Et puis le direct, c'est le foot bien sûr. Le barrage aller de conférence Europa League, Rennes Rosenborg, la fin de la première période. Xavier Grimaud.
Oui, on est dans la dernière minute, sa 44e, 1-0 pour le Stade Rennais. Le buteur Sanaïef Aguerd au quart d'heure de jeu sur un magnifique centre de Bourigeaud. On a vu des situations avec une nouvelle frappe de Rosenborg, la deuxième frappe de Holf qui est captée par Gomis. C'est un bon centre de Melling pour Benjamin Bourigeaud dans la surface, mais il était sur son mauvais pied Bourigeaud, le pied gauche, et c'est parti au-dessus des buts de Dansen. Donc les Rennais qui ont largement dominé cette première période, qui mène logiquement au score et qui aurait peut-être pu appuyer plus pour mener plus largement. Ah ouais. Il reste 20 secondes dans cette première période, le ballon dans les pieds de Loïc Badé. Est-ce qu'on va essayer d'aller en chercher une dernière? Il y aura peut-être une petite minute de temps additionnel, parce que Bourigeaud tout à l'heure s'est fait soigner. On va voir ça. On est Santa Maria avec Aguerd pour Melling côté gauche avec Loïc Badé qui peut passer le ligne médiane. Il y aura une minute de temps additionnel. Jérémy Doku, il a deux Norvégiens, il est deux au but, il va se retourner pour Amari Traoré. Il faut peut-être essayer d'aller chercher la profondeur. Santa Maria côté droit avec Traoré pour Jérémy Doku. Il va peut-être tenter le 1 contre 1, il se rappuie sur Traoré. On est dans la gestion pour l'instant. On va peut-être pas aller chercher une nouvelle occasion. On reste jusqu'à la fin de la mi-temps, Jean-Louis. Ouais, c'est presque terminé. Il reste 30 secondes avec Naïef Aguerd. La bonne passe pour Flavien Tell, le tacle du défenseur norvégien pour empêcher Melling de récupérer. Ça revient sur Aguerd. On avance tranquillement. On dirait du rugby là, du côté du Stade Rennais. On avance tranquillement, la passe entre les lignes pour Bourigeaud. On est près de la ligne d'entrée de surface de réparation avec Jérémy Doku. On est obligé de revenir derrière avec Marie Traoré. Santa Maria qui demande à Doku un appel, et on recule avec Loïc Badé. Et pendant ce temps-là, les Norvégiens, eux, courent après le ballon, et le ballon dans les pieds d'Alfred Gomis. Et on va certainement rester là sur une ultime passe de Loïc Badé pour Santa Maria. Ce sera la pause au Roazhon Park. Peut-être une dernière passe pour Bourigeaud dans le rond central. Il y a l'appel de Souleymana qu'on a très peu vu là-bas côté gauche. Voilà, il l'a vu Bourigeaud. Encore fait une galette qui lui donne pour Souleymana. Magnifique ballon de Benjamin Bourigeaud. Allez, Souleymana peut-être pour essayer de percuter. Il y a Melling qui la demande. Il y a Flavien Tell, 1-2. Il y a le 1. Le 2 est mal fait de la part de Tell. Ah, oui. Ce sera une sortie de but. Et la mi-temps sifflée à l'instant même. Le meilleur Rennais de cette première période, c'est Bourigeaud. Loin devant les autres. Le buteur, c'est Aguerd au quart d'heure de jeu. Les Rennais sont supérieurs à Rosenborg. Maintenant, il va falloir le montrer au tableau d'affichage pour se rendre le barrage retour facile.
Tu penses, Lionel, qu'ils peuvent regretter les occasions ratées?
Ah, bah moi, complètement. Complètement, t'es qu'à 1-0, t'es chez toi, il y a un match retour, t'as eu les occasions et t'es pas, c'est pas comme ça la mentalité que tu dois avoir quand t'es en Coupe d'Europe. Tu dois faire mouche à chaque fois et tu dois avoir plus de volonté. Et Genesio le disait aussi, il avait parfaitement raison.
On va parier tout de suite sur la seconde période.
Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Bredov qui est de retour avec nous.
Rebonsoir messieurs.
Alors,
1-0-3 seulement la victoire de Rennes, 8 le match nul, 36 celle de Rosenborg. Lionel, je t'entendais, les Rennais qui peuvent peut-être, qui vont regretter leurs occasions manquées. Est-ce que tu vois toujours les deux équipes marquées?
C'est dur. Ça me fait mal de te dire ça, mais
je sais pas comment ils ont fait pour mettre 38 buts en 4 matchs.
Et techniquement, il y a quand même beaucoup de déchets. Je vois plus quand même les Rennais en marquer un deuxième. Et je vais rester sur mon terrier.
Victoire 2-0 de Rennes, ça te convient?
Ouais.
Allez, ça c'est 3,25, on n'a pas encore les buteurs, mais la cote de Terrier devrait être à 2,50, c'était ça au début du match. Sinon, vous pouvez jouer évidemment, par exemple, la victoire 3-0 de Rennes, c'est 4,50. 1-0, c'est 4,10. En tout cas, les Rennais qui nous ont fait plaisir, qui dominent largement ce match et qui devraient l'emporter.
1-0, 4-10?
Ouais, exactement.
Ah! Ah, bah, vu le nombre d'occasions, oui, on peut se dire que Rennes va peut-être en mettre un deuxième.
Ouais, bah, c'est ouais, ça. Mais bon.
Donc le 2-0 à 3-25, ça aussi, c'est intéressant. Oui. Allez, merci Johan, rmcsport.fr pour tous les conseils de la Dream Team.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les infos mercato. Lionel, pas mal de choses à commenter. Vas-y. Déjà, Lyon, par un communiqué de presse, vient d'officialiser l'arrivée du champion d'Europe, donc Emerson Palmieri, latéral gauche qui arrive donc à Lyon, né au Brésil et lui qui a porté le maillot de la sélection italienne. On l'a vu pendant l'Euro, remplacé Spinazzola après sa blessure. Alors, toujours intéressant de voir comment Lyon présente certaines choses. Et donc, Lyon écrit dans le communiqué, après une petite bio du joueur. Emerson, sollicité par de nombreux grands clubs européens, a souhaité privilégier l'Olympique Lyonnais, démontrant ainsi la crédibilité du projet ambitieux du club et la rationalité de ses choix.
Bravo,
j'aime beaucoup ces deux lignes.
Et bonne puis, communication.
Alors, ouais, exactement. Et alors, comme l'OL est coté en bourse, il y a toujours une transparence parfaite sur les montants. Donc, le club indique qu'il arrive sous forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2022. Un prêt payant donc de 500 000 euros que Lyon va débourser, plus des bonus de 500 000 euros. Donc, ça fait un prêt d'un million en tout. Et une clause de match-up, une option d'achat prioritaire jusqu'à la fin du mercato 2022. Donc, si ça se passe bien avec Emerson Palmieri, Lyon pourrait le verrouiller, le transférer définitivement.
C'est bien, c'est pas cher.
Ouais, effectivement, ouais. C'est une bonne pioche pour toi, c'est le profil qui manquait à Lyon. Joueur très offensif, hein, nous disait Julien Laurence.
Ouais, après ça va être toujours le parce que ça reste un latéral, alors qu'il soit latéral, hein, c'est ça, gauche.
Ouais, ouais, exactement, arrière gauche.
Ouais. À gauche et donc. Bah c'est toujours cet équilibre en ce moment, ce qui fait défaut pour moi, pour les Lyonnais, c'est cet équilibre défensif. Donc oui, je veux bien, oui, offensivement c'est très bien, maintenant tu peux pas qu'attaquer. J'attends de voir derrière comment quelle animation il va y avoir pour parce que c'est bien beau d'avoir des latéraux qui montent tout le temps, mais il faut aussi défendre.
Ouais.
Et là on peut pas dire que ce soit mirobolant.
Des infos gardien de but, Lionel. Je sais pas ça parce que c'est toi, hein, mais c'est l'actu, c'est comme ça, hein. Donc l'Atlético de Madrid a annoncé l'arrivée du gardien français Benjamin Lecomte, l'un des nombreux gardiens de Monaco. C'était le titulaire la saison dernière, il a 30 ans. Il va venir être la doublure donc de Yann Oblak. Monaco qui a donc décidé de le prêter parce que...
Ah, il s'est un petit peu... L'année dernière, il n'a pas fait une grande saison, quoi.
Ouais, il a eu du mal, hein, l'année dernière.
Bah, franchement, autant j'aimais beaucoup ses saisons précédentes, autant... À Montpellier,
notamment, oui. Ouais.
Oui. Mais autant à Monaco, bah après c'est plus le même rôle, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que t'as le rôle où à Montpellier il était canardé de tous les côtés, il était excellent. Puis à Monaco il touchait un peu moins de ballons, il y avait deux trois arrêts à faire et il réussissait pas à les faire. C'est certainement pas un gardien pour les gros effectifs.
À Monaco il était barré par l'arrivée de l'Allemand Alexander Nöbel.
Nöbel. Ouais.
Plus Majeki qui a joué le match de Ligue des Champions. Donc il sera remplaçant d'Oblak, parce que le remplaçant d'Oblak, ça a été officialisé aujourd'hui, on en parlait hier, le croate, enfin j'ai un doute, hein, mais en tout cas Ivo Gerbic a été transféré à Lille, prêté à Lille, donc voilà, ce sera sans doute lui le successeur de Mike Maignan. Il sort d'une saison où il n'a pas joué, donc de doublure d'Oblak, mais auparavant, évidemment, il avait pas mal de rencontres en Croatie. Grand gardien, 1m95, il y a de l'envergure.
J'ai un supporter lillois qui me l'a soufflé tout à l'heure, il m'a envoyé ça. Honnêtement, je le connais pas assez.
Ouais, j'imaginais pas que tu avais vu les matchs en Croatie.
Hein, non, je le connais pas assez. Maintenant, attention, hein, la Croatie, c'est vraiment une école de très bons gardiens.
Ah oui?
Ah oui.
Ah oui, celui de Monaco, là, le nom m'échappe.
Non, mais il y a eu, franchement, il y a eu toujours des très bons gardiens en Croatie. Enfin, de toute façon, moi, c'est un peuple de footballeurs que j'aime beaucoup.
Ouais.
Je sais pas pourquoi. Enfin, j'aime quand je les rencontre pas parce que.
Subasic, bien sûr.
Subasic, voilà.
Voilà, qui est à Monaco. Donc voilà pour les gardiens. Par ailleurs, il pourrait y avoir un gros mouvement sur le mercato des gros clubs européens. Sky Sport annonce aujourd'hui l'envie de départ de Robert Lewandowski du Bayern. 33 ans, Lewandowski. Alors c'est sûr que c'est une assurance de but, hein, pour tout club qui pourrait le recruter. Mais attention, visiblement le Bayern réclamerait 115 millions d'euros pour un joueur de 33 ans. Je sais pas si beaucoup de clubs vont les mettre.
Hein. Le PSG.
En même temps, t'as l'assurance de...
Ah bah là, il t'en met, ne serait-ce qu'en championnat, il t'en met plus d'une vingtaine.
Bah ouais, c'est ça.
115 millions d'euros.
Ouais.
33 ans, mais tu franchement, quand tu le vois jouer, oui, non, moi, je comprends.
Tu comprends de la part de Lewandowski, tu comprends qu'il voudrait, qu'il veuille un autre challenge que le Bayern. T'es dans un des plus grands clubs du monde quand même.
Ouais, mais peut-être qu'il a besoin de, il a peut-être du mal à se motiver. Tu sais, c'est compliqué de rester tout le temps dans le même club et de te remotiver à chaque fois, de rencontrer tout le temps les mêmes équipes, sauf en Champions League, bien évidemment, mais de faire tout le temps le même championnat. Au bout d'un moment, t'arrives plus à te motiver. Et oui, je comprends. Je comprends. Et je suis pas, franchement, je suis pas trop surpris de ça. C'est très très compliqué de se motiver à chaque fois, hein, ouais, je te promets.
Autre info mercato, donc la Lazio a officialisé il y a un instant là l'arrivée de Pedro, tu sais, l'ancien joueur du Barça, ouais, qui était Barça, à l'AS Roma, à Chelsea. Donc voilà, il devrait aller à la Lazio. Bon, on l'a jamais retrouvé aussi bon qu'au Barça. Hein.
Non, c'était t'as eu le Pedro du Barça, puis après je pense que c'était plutôt un Pedro.
Bon, très bien ça.
Désolé,
c'est très bien. Non,
désolé,
non,
désolé.
C'est très bien.
Non, c'est plus du tout le même joueur. Il s'est perdu complètement.
Et puis allez voir sur rmcsport.fr. On vous a mis des extraits d'une interview d'Abdou Diallo, le défenseur du PSG. Il était invité d'une émission donc sur YouTube. Et donc on l'a interrogé sur Kylian Mbappé, un éventuel départ de Mbappé. Et Abdou Diallo a dit: je vais lui faire une clé de bras. Je peux vous dire qu'il va rester. Voilà pour la petite phrase. Et sinon, l'interview est assez sympa d'Abdou Diallo. Donc, allez voir ça en détail. Il dit: Mbappé, je le connais depuis qu'il a 15 ans. Il était au centre de formation avec moi à Monaco. Il a joué avec mon petit frère. Donc, en plus, donc je lui souhaite avant tout d'être heureux et j'espère qu'il restera ici. Voilà, le feuilleton Mbappé. C'est pas fini, Lionel.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, une petite inspiration, un petit pronostic sur le
moi, j'espère qu'il va rester. J'espère que, parce que quand tu vois tout ce qui est fait par le PSG, maintenant tu peux pas aller contre sa volonté. J'ai entendu dire aussi qu'il y aurait eu une parole de Nasser qui n'aurait pas été tenue. Ça l'a un petit peu contrarié en disant qu'il le laisserait partir cette année. Il a aussi dit qu'il voulait un grand recrutement. Enfin, que selon le recrutement et selon l'ambition politique. Et alors le recrutement.
C'était un peu du vent, non? Enfin, on a compris maintenant.
Bah,
le recrutement, oui. Tu peux pas faire mieux que ce qu'il a eu.
Voilà. Après, tu peux pas faire mieux. Attention, c'est pas parce que tu recrutes les meilleurs joueurs et que tu les alignes que tu vas avoir une superbe équipe.
Ça, bien sûr.
Le recrutement maintenant, c'est vrai qu'en termes de stars et tout ça, c'est phénoménal. C'est le transfert du championnat de France. Lionel, ça n'a jamais été fait,
c'est fini.
Donc maintenant
20h55. Ah ouais. Et oui, on n'a pas vu le temps passer, on s'est tellement régalé.
Ah, tu m'as régalé.
L'after arrive tout de suite avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut à tous.
Salut Lionel.
Ciao poulet.
Salut Lionel. Salut Jean-Louis. Tiens, on va en parler des gardiens, nous. Oui, parce que dans plein de clubs il y a l'incertitude. Lyon, Monaco, Paris, Marseille, Brest, et j'en passe les meilleurs. Et puis il n'y a plus de gardien français. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Ah oui, je vous ai entendu en parler hier.
Donc débat ce soir avec.
Il y a Bernardoni.
On a vu aux Jeux Olympiques.
Ah bah, il était bon au jeu.
Christophe Leluchon sera avec nous, parce que Lionel était déjà avec toi pendant 3 heures, donc on n'allait pas le garder quand même. Plus débat autour de ces joueurs qui veulent tous partir en fin de contrat, c'est la nouvelle mode. Alors est-ce que c'est juste pour la thune, pour toucher les primes à la signature, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? On parlera également préparation physique avec la méthode hollandaise de Kevin Diaz, attention, ça va envoyer.
Ah oui, je l'ai vu en parler sur.
Sans oublier évidemment la Conference League qui fait rêver le Stade Rennais et tout le reste de l'actu, notamment en Italie ce soir, et puis à Lille. Bourak Yılmaz, alors s'il s'en va, Jean Baumel pose un arrêt maladie, donc il va nous le confirmer tout à l'heure.
Allez, c'est parti pour l'after jusqu'à minuit. Le RMC Football Show de retour demain 18h. Ciao.